Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour parler d'IndyCar et d'absence de course en IndyCar, mais également de NASCAR. Lilian est là cette semaine. Salut Lilian.
Bonjour Geoffroy et bonjour tout le monde.
Et Aloïs. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Alors, comme vous le savez, l'IndyCar aurait dû être à Mid-Ohio cette semaine, Lilian. Non pas pour une course chiante, mais pour deux. Et finalement, on a tiré le gros lot. Il n'y aura pas de course à Mid-Ohio ce week-end, puisque coronavirus oblige, le circuit a pris la décision de reporter les courses à une date ultérieure. Pour l'instant, on n'a pas la date. Il se pourrait que ce soit en septembre, il se pourrait que ce soit en octobre.
Et encore, il faudra voir si elles auront lieu.
Mais au pire, on a toujours la possibilité de faire l'Indianapolis Motor Speedway Series pour cette saison 2020 avec deux courses supplémentaires à Indianapolis. On n'est plus à sa paix.
Sponsorisé par Roger Penske.
C'est ça, le pauvre. Le pauvre, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Il n'a rien demandé à personne.
Par contre, il y a un déçu de cette annulation à Mid-Ohio.
Ah, c'est Scott Dixon,
on est d'accord. Là, ce qu'il avait une, voire deux victoires dans le meilleur des cas, et ben là, sous le nez.
Oui, bon, enfin, son début de saison n'est pas à chier non plus, quoi, à ce brave monsieur.
Non, ça va, il y a pire.
Ouais, on est d'accord, il y a pire. Donc voilà un petit peu pour cette partie Mid-Ohio. Donc je vous aurais bien donné les horaires si je les avais eus, mais de toute façon, je ne les aurais pas eus non plus. Donc, ça ne change rien de ce côté-là.
Non, enfin, ça, faudrait quand même parler du calendrier, parce que là, ça part quand même sérieusement en cacahuète du côté de l'IndyCar.
Mais comment ça, ça se barre en cacahuète? T'as un calendrier condensé sur 4 mois, et sur les 4 mois, t'as 2 mois sans course. Tout va bien.
C'est une manière de détruire, voilà, c'est une manière de gonfler artificiellement le enfin, pas de le gonfler, mais en tout cas, oui, voilà, tu l'étires.
Parce que l'IndyCar allait techniquement de début juin à fin octobre, si je résume rapidement, avec aucune course pendant un mois avant le mois de juillet et aucune course en septembre, pour résumer la chose. Donc voilà un petit peu pour le calendrier IndyCar. Après, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que tu veux maintenir un minimum de 14-15 courses, t'es obligé de faire des double headers dans tous les sens. Le fait de faire des double headers sur 2 jours, forcément, ça te supprime une semaine de compétition ailleurs.
Vas-y, je te laisse finir.
Donc, ton calendrier restreint, et finalement, il est restreint sans être restreint.
Ce que je reproche à l'IndyCar, et je vais faire le lien avec l'émission qu'on a fait la semaine dernière, notamment sur la reprise de la NASCAR post-confinement, la NASCAR a pris le temps en fait pour élaborer son calendrier, c'est-à-dire qu'elle l'a dévoilé au fur et à mesure. Au contraire de l'IndyCar, qui n'a fait que donner l'intégralité de son calendrier à chaque fois, pour le remodifier au moins 2 fois. Là, il sera remodifié une 3e fois et on n'est pas à l'abri d'autres modifications. Et je trouve que c'est là leur gros défaut, c'est qu'ils ont peut-être été un petit peu vite. Et puis, il manque complètement de crédibilité, je trouve, parce que là, on va d'annulation en annulation. On va se retrouver avec 100 courses d'IndyCar pendant, on va faire plus d'un mois, puisque la prochaine course sera l'Indy 500. Qui, oui, pareil, bon, enfin, à la base, devait être avec du public. On va se retrouver sans public, on va y revenir après.
Oui, ben ça commence mardi prochain, mercredi prochain, l'Indy 500.
Ouais, enfin, bon.
Oui, je sais, tout le monde s'en fout des essais.
Disons que oui, enfin après, bon, le mois Indianapolis, oui, c'est assez particulier. Bon, ça, on y est habitué, hein. Il y a toujours un mois qui est toujours, réservé à la plus grande course de la saison.
Mais tu disais tout à l'heure, Lilian, que l'IndyCar gonflait artificiellement son calendrier. Mais en fait, elle le fait. Hein. Ces double headers, c'est gonfler le nombre de courses dans l'année. Si tu regardes bien, t'as pas plus de 10 pistes différentes. Et plus on avance de la saison, moins il y en a.
Et, au pire, c'est, ouais.
Et plus on se rapproche de la moitié des courses à l'Indianapolis Motor Speedway, que ce soit sur le routier et l'ovale. Donc, je te rejoins totalement sur le fait que l'IndyCar a totalement chié dans ses bottes concernant son calendrier. Et elle pourrait prendre exemple de la NASCAR, effectivement. Et on est en 2020 et je pensais pas dire cette phrase un jour dans ma vie.
C'est moche. C'est moche, Aloïs.
Non, mais c'est vrai, on retourne quelques années en arrière, c'était plutôt l'inverse. Hein.
Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Mais bon, comme quoi, fin, tu vois, tout évolue.
Parce que la NASCAR a pris la décision de conserver le même nombre de courses, que ce soit pour la saison régulière, et garder le même calendrier pour les playoffs. Et elle va y arriver. Elle va le faire. La NASCAR, elle a déjà réduit à 14, et les 14 parties comme c'est, on ne sait même pas si elles vont avoir lieu.
Mais en vrai, je vois pas en quoi il y a un souci d'aller à Mid-Ohio cette semaine que d'aller à Atlanta, par exemple, en NASCAR, le mois dernier. Je vois pas en quoi c'est plus dangereux d'aller à Mid-Ohio que d'aller à Atlanta, qui, allez, on va dire, c'est quoi c'est dans Birmingham, dans l'Alabama, donc t'es à, allez, t'as quoi, 2-3 heures de caisse, je dirais, max, entre les deux pistes, et Birmingham, enfin, le Mid-Ohio. Qu'est-ce que je dis, Mid-Ohio, c'est pas dans l'Alabama, si ?
Non, bah non, Mid-Ohio, c'est dans l'Ohio, non ?
Mais oui, c'est j'ai confondu avec Barber. Non,
c'est Barber qui est dans l'Alabama.
C'est Barber.
Ouais, mais on se disait que peut-être tu voulais, enfin, je sais pas, tu voulais passer par Birmingham, on comprenait pas pourquoi, mais...
En tout cas, Mid-Ohio est quand même assez paumé dans la cambrousse, oui, effectivement, c'est de l'Ohio, on est d'accord.
C'est Lexington, le circuit de Mid-Ohio.
Ouais, c'est ça, Lexington, c'est Lexington.
Effectivement, en plein centre. Donc ouais, c'est entre Akron et Columbus. Je fais du live Google Maps.
Normal, quoi.
Il y a juste 650 miles quand même entre Atlanta et Mid-Ohio, quoi. Il y a 10 heures de route.
Mais Mid-Ohio, c'est paumé au milieu de nulle part. Je vois pas quels sont les risques sanitaires, surtout si tu n'as pas de public dans les tribunes. Je vois pas en quoi le problème est de supprimer cette course. Là, je parle dans l'actualité chaude. Alors qu'en NASCAR, tu vas dans des villes beaucoup plus grandes. Par exemple, Texas, tu étais à Fort Worth, qui est l'une des plus grandes villes de l'État. Et ça, tout se passe nickel. Je vois pas pourquoi l'IndyCar est forcé d'annuler une course après course.
Alors attends. C'est pas l'IndyCar qui a annulé. C'est le Mid-Ohio Sports Car Course qui a reporté... en accord suite à des discussions avec les autorités sanitaires compétentes. Je veux bien qu'on tape sur la tête de l'IndyCar parce que c'est beau, c'est gentil, c'est facile. Mais là, c'est pas l'IndyCar qui a annulé. C'est Mid-Ohio qui a dit niette.
Donc,
pas la même chose.
On en revient à ce que disait Lilian tout à l'heure. Il manque clairement du leadership au sein de l'IndyCar pour driver au moins les circuits membres du calendrier.
C'est sûr que c'est pas Steve Phelps.
Donc
la NASCAR, tout ce qu'elle a dévoilé, ça s'est réalisé.
On oui,
a
pour l'instant, tout,
jusqu'à
pour l'instant, tout a tenu, ouais. tout a tenu sans aucun souci. Donc voilà, il y aura pas de Mid-Ohio ce week-end. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Ben, on vous le dira quand on aura plus d'informations. Pour l'instant, c'est hypothétique, sûrement en septembre. Peut-être en octobre, mais...
Il y a aussi Portland qui a sauté du calendrier au même moment.
Un peu avant, oui. Portland et Laguna Seca, mais ça, c'était attendu. On en avait parlé la semaine dernière avec Lilian. Et ça avait été remplacé par justement une course à Mid-Ohio, une course à Indianapolis,
c'est bien ça. C'était pas une deuxième course à Gateway ?
Et une course à Gateway aussi. Ben si, mais il y avait trois courses à remplacer.
Ah oui, exact.
Il y avait une à Portland et deux à Laguna Seca. Donc, c'est ça, c'était Mid-Ohio, Indianapolis et Gateway.
Du coup, à l'heure actuelle, on a 12 courses au total sur le calendrier de l'IndyCar, ce qui est relativement pathétique et un total de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pistes. Et Saint-Pétersbourg, j'ai un petit peu du mal à le voir se dérouler à l'heure actuelle, vu comme les circuits se désistent les uns après les autres.
Attends, pour l'instant, on parle que de Mid-Ohio. S'il te plaît, ne lis pas dans le marc de café. Attends l'émission de la semaine prochaine ou dans deux semaines pour parler de l'annulation de Saint-Pit. S'il te plaît, Aloïs. Je suis le conducteur de l'émission.
On se garde du contenu pour la semaine prochaine. Je
lui, l'accorde. Il nous fait déjà du teasing sur l'émission des semaines à venir. Lui.
Mais tout ça pour dire, au final, que au jour de l'enregistrement début août, on a quand même 6 pistes au calendrier de l'IndyCar. C'est très, oui. très triste.
Oui, c'est vrai. Non, mais après, enfin, t'as un championnat avec en gros une quinzaine de courses par saison. Sur une quinzaine de pistes, globalement. Enfin, un peu moins, parce que tu vas deux fois à Indianapolis et tu es allé deux fois à Détroit. Mais c'est tout. Donc, tu avais déjà peu de pistes à la base, peu de courses. Là, tu en as encore moins. Mais finalement, il y a pire quand même. Hein. Faut juste traverser la frontière, aller au Canada, Aloïs, avec la série canadienne de la NASCAR. Je crois qu'il n'y a que trois courses de prévues au calendrier cette année.
Eh bien.
Ça fait un peu light, alors que d'habitude, il y en a de tête entre 12 et 15, quelque chose dans cet ordre-là. Je n'ai plus le calendrier exact en tête, mais enfin, il y a pas mal de choses du côté de la NASCAR au Canada. Et cette année, il y a trois pauvres courses qui se battent. Voilà, c'est compliqué. L'IndyCar en fait les frais avec Mid-Ohio. Et enfin. Si seulement il y avait que Mid-Ohio pour en faire les frais, non, puisque bah, Indianapolis est aussi impacté, messieurs. L'Indy 500 aurait dû débuter dès mardi de la semaine prochaine, le 11 août, pour se clôturer le dimanche 23 août avec en gros une centaine de milliers de spectateurs. Finalement, il n'en sera rien. La journée du mardi est annulée, donc ça commencera que mercredi prochain, le 12 août, et il n'y aura pas de spectateurs pour la course le dimanche 23 août, Lilian, c'est les dernières infos dont on dispose.
Bah moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est enfin une décision raisonnée de l'IndyCar.
Alléluia.
Oui. Alors, bien sûr, hein, je comprends tout à fait l'IndyCar de vouloir... de vouloir autoriser l'accès au public à Indianapolis pour leur épreuve reine, hein, je le comprends tout à fait. Et vu la situation, qui plus est aux États-Unis et sur tout le continent américain, actuellement, il était plus que préférable d'interdire l'accès aux fans.
C'était même nécessaire. Rassembler autant de personnes sur un même circuit, bien qu'il soit très grand, c'était complètement... insensé, c'était dangereux, c'était quasiment criminel, désolé, mais vu l'état de la pandémie aux États-Unis, autoriser une centaine de milliers de personnes dans un endroit clos, quelle que soit sa grandeur, c'est criminel. Et je pense que enfin, l'IMS et l'IndyCar ont touché terre et auront pris la bonne décision en empêchant l'accès de l'Indianapolis 500 aux fans.
Donc voilà, une course à huis clos, c'est vraiment une année 2020 historique pour l'IndyCar, historique malheureusement dans le mauvais sens du terme, puisque l'Indy 500, qui traditionnellement est sur le week-end du Memorial Day, donc fin mai, est décalé au mois d'août, et d'habitude on a toujours des centaines de milliers de fans, là cette année il y en aura zéro. Alors certes, ça va faire drôle, c'est notamment sur tout ce qui va être cérémonie d'avant-course et sur tous les plans lorsqu'on verra les tribunes. Mais après, la physionomie de la course en elle-même ne va pas changer. Ça va rester une course de 500 miles à Indianapolis avec toute la charge émotionnelle, stratégique, psychologique qu'elle comporte.
Bah écoute, j'espère.
Oui.
Moi, non, je sais pas. Je suis un peu pessimiste, si tu veux.
Tu penses qu'on pourrait annuler l'Indy 500
Non,
d'ici,
mais.
d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines?
Non. L'Indy 500 sera maintenu. Ça, c'est, j'en suis convaincu. De là à avoir, comme tu dis, cette charge émotionnelle, cette tension qu'on peut avoir, je sais pas, cette saison est tellement. Cette année, cette saison IndyCar 2020 est tellement sera et est tellement à part. Je sais pas. Est-ce que cette course va vraiment valoir le coup?
Est-ce que toi, tu auras un intérêt à regarder cette course? Hormis pour en parler dans l'émission de la semaine suivante.
Moi, en tant que fan, bien sûr que je serai devant le poste.
D'accord, mais... oui, tu seras quand même devant ta télé.
Ah bah bien sûr. Je vais m'arranger d'ailleurs pour rentrer de vacances juste ce qu'il faut pour être vers 20h, je crois, c'est ça, devant ma télé.
Pourquoi oui, tu ne seras pas devant ta télé, Geoffroy?
Non, je serai devant la tablette.
Enfin, devant la course, on s'entend.
Ah si, bien sûr. Mais si tu veux, les propos de Lilian étaient tels que j'avais le sentiment que qu'il en avait rien à foutre, mais qu'il y avait une sorte de démotivation, de désintérêt.
Bah si tu veux, alors après, nous on est des purs et durs. On regarde toutes les courses ou presque, même en pleine nuit. Alors je parle surtout pour Geoffroy et moi, on se lève.
Eloïse prend ça dans les dents.
Non, mais bon, c'est vrai que la plupart des courses, Geoffroy et moi, on les regarde peu importe l'heure. Donc voilà, bien sûr, regarder les 1500, ça ne se loupe pas sous quasiment aucun prétexte. Après, voilà, je me dis qu'un fan un peu plus lambda, il va passer à côté. Ça reste quand même une grande fête du sport auto. Là, sans fan, sans rien en tribune, l'ambiance ne sera pas la même. Et est-ce que sur la piste, on va retrouver la même détermination de la part des pilotes? Je sais pas.
Bah, ça reste quand même une 1500, ça reste le trophée, ça reste embrasser le yard de briques, le lait, etc. Ça, la tradition ne va pas se perdre.
Est-ce qu'elle aura la même valeur pour les pilotes, cette course 2020, ouais.
Alors peut-être que sur l'instant T, non.
Ça reste quand même un
oui, début. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec Aloïs.
Faut quand même laisser. Ce soir, et j'en prends plein la gueule.
Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Attends, fais une croix dans le calendrier, quoi. Ça restera une Carolina 500. Et...
Visuellement, c'est sûr que ça sera pas la même chose pendant la course. Les tribunes remplies, les holà des tribunes à certains moments chauds. C'est sûr que ça va manquer les plans larges sur les
tribunes. Mais ici, va éviter d'en faire, je pense.
Mais au final. On regarde la course pour les exploits qu'il y a en course, pas pour les...
Comme pour les gens dans les tribunes, ouais, on est d'accord.
Les technos, ce sera un peu méchant, mais pas pour les fans qui sont en tribune. Faut arriver à séparer. Certes, le folklore de la journée sera différent, on est totalement d'accord. Mais aussi, il faut regarder dans l'autre sens. Il faut se dire qu'on a été quand même assez... comment dire, j'ai le mot en anglais. Comment on dit ça en français?
Bah, dis-le en anglais.
Starve, c'est affamé.
Oui, c'est ça, affamé. Oui.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, on a été privé de sport pendant plusieurs mois. Ça reste encore assez éparse puisqu'il y a que très peu de sports majeurs qui ont repris. Donc, en général, toute compétition sportive donne de l'intérêt puisque on en a pas eu pendant 3-4 mois. Tu vois, je me mets même à regarder quelques highlights en F1 pour te dire en quoi j'ai faim.
Ah, t'es au bout de ta vie, mon grand.
Ah ouais. Quand je me dis que je suis obligé de regarder les peintres en F1, je me dis, ouais, ok, il y a eu du mal.
Ouais, fais demi-tour. Non, c'est moche. C'est moche d'en être tombé là. Mais bon, après, chacun ses goûts. Du coup, on a parlé de Mid-Ohio, on a parlé d'Indianapolis. Autre petite actu comme ça, IndyCar à chaud qui a fait sourire Lilian et comme ça, on aura fait presque une demi-heure sur l'IndyCar. Quoi, on pourra arrêter l'émission. C'est comment qu'il s'appelle le Brésilien? Helio Castroneves, Lilian.
Ah bah voilà, justement, j'allais te demander si hein c'était de ce sujet-là que tu voulais parler.
Mais bien sûr qu'on en parle d'Helio Castroneves.
Grand personnage de l'IndyCar depuis de nombreuses années.
Oh bah oui, À l'époque, il y avait même du kart pour ceux qui suivaient au millénaire dernier. Donc, Helio Castroneves pourrait revenir en IndyCar la saison prochaine, à temps complet.
En tout cas, c'est son souhait, mais ça, si ça se fait, ce ne serait pas au volant d'une monoplace Penske, puisque la Penske l'a autorisé à aller prospecter ailleurs. Donc, il aura à cœur de se montrer sous son meilleur jour à l'Indy 500 dans quelques semaines pour pouvoir, il l'espère, décrocher Pinotion. On aimerait bien le revoir, hein, même s'il est plus tout jeune. Il a encore la niaque pour aller nous chercher quelques victoires, je pense.
Le feu sacré.
Oui, voilà, c'est ça. Bah, quand on voit Scott Dixon, bon, il a quelques années de moins, Scott Dixon. J'ai pas son âge en tête, il a quelques années de moins. Mais quand on voit son début de saison, on en a déjà parlé, ça laisse rêveur. Mais puis bon, Castroneves, ça reste un personnage quand même, hein, très attachant, qui plus est.
Scott Dixon a eu 40 ans à la fin du mois de juillet.
Ouais, voilà, donc ils ont 5 ans d'écart. Puis après, bon, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, le programme IMSA, dans lequel est engagé notamment Juan Pablo Montoya et Helio Castroneves, va prendre fin à l'issue de la saison 2020, oui. Puisque Acura n'a pas renouvelé avec Penske pour 2021.
Tout à fait. Donc, du coup.
Donc, affaire à suivre pour Helio Castroneves, oui.
Helio Castroneves, ce qui serait beau, c'est de prendre la suite de son pote Tony Kanaan chez Foyt.
Ah, pourquoi pas?
Un vieux remplace un encore plus vieux.
Avec tout le respect que j'ai pour Tony Kanaan, ils ont quand même pas le même pédigré.
Non, mais il y en a un qui est champion, pas l'autre.
Et bim!
Et les deux ont au moins une victoire aux 500 miles.
Ouais.
Et les deux quand même étaient dans des écuries prestigieuses, hein, parce que Kanaan, oui, bah, il est champion, il est chez Andretti, hein, c'est pas
Andretti Green à l'époque.
Ouais, Andretti Green, ouais. C'est pas une équipe de peintres, hein, donc.
Bah, il était le fer de lance de la Andretti aux grandes heures de la Andretti quand même.
Oui, c'est ça. Avant l'arrivée de Marco.
Le truc, c'était surtout les speedway, c'était pas les urbains ou routiers.
Pourtant, je leur vois gagner sur certaines courses routières et urbaines.
J'en ai pas qui me reviennent comme ça, mais.
Il me semble qu'il nous fait une victoire du côté de Saint-Pétersbourg ou de Sonoma. Ça me parle. Là, si tu veux, j'ai pas ces stats en tête.
Je vais creuser ça.
C'est des choses qui me parlent. Ce que je vous propose, c'est de. Sauf si Aloïs, tu veux rajouter quelque chose sur Tony Kanaan et Lucas Neves.
Oh, je pense qu'on a fait le tour. Hein.
Voilà, c'est de boucler cette page IndyCar.
Il y a un tout petit peu de NASCAR.
C'est ça, il y a un tout petit peu de NASCAR. Et juste avant, il y a quand même un petit j'aime pas, parce qu'on a quand même tous deux, trois petites choses à dire. Donc, on va enchaîner là-dessus. Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Mon j'aime, c'est d'avoir enfin repris la course à pied. Que j'avais bien développé pendant le confinement. Avec la reprise, ça a été un petit peu plus dur physiquement. Donc, là, je m'y remets. Donc, ça me fait bien plaisir.
Et avec un masque.
Ouais, ouais. Ils sont cons.
Ouais, c'est ça. Gaffe, ouais. Il y a les flics qui vont passer dans pas longtemps.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Clin d'œil à la sirène qu'ils ont entendue avant l'émission.
Ouais, et du coup.
Bon, j'aime pas.
Bah ouais.
Ah, les jolies cabrioles que Kyle Larson nous a fait en sprint car.
Ah oui, ça a piqué. Ça a mis fin à cette course consécutive victorieuse.
Ah ouais, non, puis celle-là, elle est belle. Hein. Il nous a fait un beau tonneau. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, la vidéo.
Ouais, il s'en sort sans bobo.
C'est clair. Heureusement.
Aloïs.
Moi, cette semaine, j'aurais deux j'aime pas. Je crois que j'en avais deux j'aime la semaine dernière.
Au final sur la saison ça équilibre.
C'est ça, j'équilibre. Donc j'aime pas le vent de face à vélo, c'est pas cool.
Eh ben retourne-toi.
Ouais, quand t'as qu'un seul sens de circulation, je vais te dire, t'as pas trop le choix, mon petit. Hein.
Pars avec le vent dans le dos.
Bah je suis parti avec le vent de face et je suis revenu avec le vent de dos. Et mon deuxième j'aime pas, la tronche de nos pronostics depuis quelques semaines, et ben c'est pas joli joli. Hein.
Ouais, ça va, ça va. Ça va, il y a pire, Aloïs. C'est bon, ça va, c'est pas parce que t'as fait de la merde encore une fois. C'est Bah, parce que tu as fait 4 fois moins de points que Lilian, que tu dois te plaindre, quoi.
Mais je ne me plains pas, je dis juste qu'on n'est pas très bon depuis quelques semaines.
Non, on n'est pas très bon, on est mauvais, c'est différent. Et puis on comptait sur l'IndyCar pour se rattraper, mais il n'y a pas de course.
Oh merde.
Exactement. J'y vais avec mon j'aime, messieurs. Découvrir les contreforts du Jura, les baskets aux pieds, c'est cool. C'est sympa.
C'était où?
Dans la capitale du Doubs.
À Besançon.
Exactement. Et puis ce
qui
est bien, c'est que...
C'est joli, Besançon, c'est ce qu'on me disait.
Bah ouais, et puis tu pars d'un côté, ça monte, tu pars de l'autre, ça monte. Donc c'est pas mal, ça me plaît beaucoup comme méthode. Tu vois, tu cours 1h30, tu te fais 500 mètres de dénive sans forcer. C'est bien. J'aime bien. Mais j'aime pas me dire que j'ai vachement perdu en course à pied quand même.
Demande à Lilian, il peut te donner 2-3 tuyaux.
Non, ça va.
Je confirme, ouais, ça va très vite, ouais. La perte d'endurance, ouais, c'est clair. Je confirme.
J'ai pas besoin de tuyaux pour courir, juste des pistes.
Mario, c'est pas ton deuxième prénom?
J'ai une gueule à être plombier, moi.
Non, c'est Richard, tu le sais.
Allez, la NASCAR, Lilian. On va faire très vite, je pense, sur la course de Loudon, puisque...
Oui, il y a plein de choses intéressantes à voir par ça.
Ça peut se résumer à Crevaison, Keselowski, Hamlin.
Ah oui. C'est malheureusement, c'est un résumé très très rapide, mais
voilà. Et ben, on passe aux
actions. C'est ce qu'on va retenir de ces 312 tours à Loudon.
Exactement. Non, 301
tours, pardon. Mais 312 miles, non?
Non, 317, 318. Bon, 312, c'est à Phoenix.
Ok.
En général. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Pour revenir sur Keselowski versus Hamlin, il suffit de regarder le nombre de tours menés. Puisque Keselowski en a 184, Hamlin en a 92. Et le troisième meilleur total est Chase Elliott avec, petit roulement de tambour, 9.
Ouais, 9. Non, mais de toute façon, ils ont archi dominé la course. Il n'y a juste absolument aucune surprise à les retrouver devant. Voilà, Keselowski gagne parce que Hamlin ne voulait pas d'un homard. Il a une phobie des homards monstrueuse. Et c'est pas une connerie.
C'est vrai en plus.
Ouais, il a une phobie des homards, Hamlin. Il adore gagner des courses, mais je peux te dire qu'à Loudon, quand il doit avoir un homard, il le prend et il le met très loin de lui, le homard. En plus, il est vivant, quoi.
Pourquoi donc, tu nous as pas dit ça en info qui sert à rien? C'était parfait.
Bah non, parce qu'il a les élastiques au pince. Hein.
Parce qu'il a pas gagné. Donc voilà. Mais non, Denny Hamlin a une sainte horreur des homards. Donc voilà, et ça a permis à Brad Keselowski de signer son contrat pour 2021. Donc finalement, tout va bien, quoi.
Bah comme il a senti que ça sentait pas, que c'était compliqué chez Hendrick. Ouais. On va en parler prochainement.
C'est ça. Donc Brad Keselowski s'impose, dominateur. Aloïs l'a dit, on va pas y revenir, vainqueur logique. Enfin. On peut dire tout ce qu'on veut. Voilà quoi, il mène 184 tours. Le deuxième Hamlin en mène 92. Il n'y a pas de surprise sur ces deux noms-là. Par contre, le troisième, Lilian, Martin Truex Jr., je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, on ne l'a pas vu de la course. Alors peut-être que je n'ai pas regardé la course, hein, je ne sais pas, ou j'ai pas regardé la même course que vous. Mais on ne l'a pas vu et il nous a fait une Kenseth de la grande époque. Il a été clinique. Et il nous a fait un bon résultat, alors que finalement, il n'a pas été dominateur comme a pu l'être à Hamlin. Ce qui me fait dire que la Gibbs de 2020, c'est Hamlin et de temps en temps les autres.
Bah alors, pour revenir sur Truex, si je me souviens bien, il a pris une pénalité dans les stands parce que ses mécanos ont laissé filer une roue. Donc, déjà, ça. Pardon ?
C'était lui ? Il me semblait que c'était quelqu'un d'autre.
Ou c'est Jones ?
Non, pour moi, c'est Jones.
Ah, c'est peut-être Eric Jones, autant pour moi. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que concernant les voitures Gibbs. On a vu Kyle Busch, au bout de même pas 20 tours, qui a fini dans le mur, et course terminée.
Oui, sa course, elle a été plus longue sur le chariot qu'il l'a mis à l'infield, au centre médical.
Mais en tout cas, Martin Truex Jr., invisible du début à la fin, et puis à la fin, pouf, hop, je finis troisième.
Ouais, non, mais c'est. Voilà.
C'est du Kenseth, j'allais dire. Il a parlé de Kenseth, il me perd. C'est du Truex, ouais.
Mais c'est fort, finalement. C'est là aussi qu'on voit les bons pilotes et les bons mécaniciens capables d'ajuster. Il n'y a pas besoin d'être devant en début de course, c'est à la fin qu'il faut l'être. Et Truex l'a parfaitement géré. Mais c'est vrai que ça fait drôle, quoi. J'ai l'impression que Truex, on ne l'a pas vu de la course. Tu me confortes, donc ça va.
Oui, non, mais on en a parlé hors antenne, on est d'accord. Et après, concernant son autre coéquipier, Eric Jones, lui, on l'a vu, il a quand même été aux avant-postes.
Ouais.
Il aurait pu signer un top 5, sans problème.
C'est vrai, mais ça ne l'a pas fait.
Non.
Le top 5, rapidement, Logano, Harvick, il n'y a pas de surprise. Et dans le top 10, Matt DiBenedetto. Alors, c'est intéressant en vue d'une qualification au point pour les playoffs, mais je pense qu'il va en manquer. Arik Almirola, le rookie Colcaster, Chase Elliott et Tyler Reddick qui s'est bouffé une partie de la Hendrick dans les derniers tours de la course Lyon.
Ouais, la Hendrick, ouais.
En même temps, avec un sponsor qui s'appelle Feeding America, c'est sûr, il avait peut-être faim, quoi. Donc, la seule chose qu'il a trouvé, c'est des bagnoles Hendrick.
La Hendrick, c'est quand même pas folichon. Hein.
Elle aurait pu espérer un meilleur résultat à la Houghton.
On était plein de... Comment ? On était très élogieux concernant la Hendrick et notamment, en particulier, Jimmy Johnson en début de saison. On a eu quelques victoires, puisque Bowman a gagné une course. Chase Elliott en a gagné une également.
Plus la All-Star, ouais.
Oui.
Mais il en a gagné une à Charlotte, ouais.
Mais à part ça, c'est quand même pas folichon pour l'Hendrick. Hein.
Je trouve que c'était meilleur cette semaine que les précédentes. En tout cas, on a vu Byron qui titillait pour la première place et était un long moment dans le top 5. Jimmy Johnson était dans le top 10 très régulièrement au cours de la course.
Malgré un tête à queue.
Ouais, mais... Malgré
un tête à queue. En plus, la... Oh, c'est ce que ça, et ça corrobore ce que je disais il y a quelques semaines. Jimmy Johnson réalise une bourde à chaque course, une bourde de rookie. Là, ça n'a pas manqué une nouvelle. Mais au final, ça fait 11 et 12. Je pense que les deux auraient mérité clairement un top 10, ça aurait été pas volé.
Enfin, globalement, sur du long terme, la Hendrick est pour moi sur une pente descendante, Aloïs. Sur du très long terme. Hein,
Je ne dis pas le contraire. Après, je pense qu'il se propose en tant que troisième meilleure écurie avec la Stewartas et la Penske à l'heure actuelle. Et je les mets au même niveau que la Gibbs. Si Hamlin n'est pas aussi supersonique que cette année.
Honnêtement, je pense que la Gibbs est devant. Honnêtement.
Sur le papier déjà, les pilotes, c'est pas le même pédigré. Hein.
Ouais, déjà.
C'est pour pas reprendre le sponsor de Kyle Busch de dimanche dernier. Mais,
c'est ça.
mais t'as quand même des pilotes qui ont chez Gibbs, t'as quand même une expérience de malade, quoi. C'est-à-dire t'en as deux qui ont été champions, oui. Et t'as Hamlin qui est là depuis un paquet d'années.
Eh non, mais on est d'accord que.
Après voilà, c'est cyclique, hein, voilà, la Hendrick, Junior est parti, Gordon est parti en retraite, Johnson c'est imminent.
Ah bon, voilà. Il est encore là.
Pardon ?
Pardon, j'ai dit il est encore là, mais de manière humoristique.
Mais... mais donc, bon. Ouais, non, c'est vrai que je rejoins Geoffroy, ouais, c'est pour moi, c'est la Gibbs est devant, quand même.
Je trouve quand même que la Hendrick fait mieux cette année que la saison dernière, je pense qu'on est d'accord pour dire ça.
Ouais, on l'a déjà dit que la nouvelle Chevrolet a porté un vrai plus.
Oui, ça,
après.
C'est mieux.
Je pense pas que la Hendrick est à jeter, mais je te vois venir de très 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 loin, Geoffroy. Pourquoi tu posais cette question ?
Vas-y, embraye.
Eh bien, puisque il y aurait une rumeur qui dirait que la Hendrick passerait à 3 voitures à partir de 2021.
Effectivement, ça fait partie des possibilités. On va y revenir juste après sur la partie actualité avec les transferts qui se mettent en place. Mais avant, j'ai quand même une autre question à te poser, Aloïs, parce que tu es très attendu sur ce sujet, a priori, de 600 pages. Ta, pe
Là.
ta petite dissertation sur Kyle Busch, bon, qui a été en vrac sur cette course, ce problème de pneumatique, il n'a pas été le seul, mais c'est vrai qu'il a abandonné après 15 tours. Il faisait la gueule comme après chaque abandon, ça, c'est pas le souci. Mais c'est plus un petit peu sur la forme ou la méforme de Kyle Busch, qui est le champion en titre. C'est pas le premier champion en titre à être un petit peu en vrac l'année d'après, mais là, globalement, Kyle Busch, il est dixième du championnat après 20 courses, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, il en reste 6. Il n'a toujours pas gagné. Il est à 240 points de Kevin Harvick. Alors, tu vas me dire, Kevin Harvick, il a 4 victoires. Mais enfin, en 20 courses, ça commence à faire. Ça fait une moyenne de 12 points par course. Ça fait bah, 12 points, ça fait 12 places.
Et du coup, quelle est ta question?
Bah, du coup, qu'est-ce que tu penses de Kyle Busch en vue de, enfin, sur cette saison, comment tu le juges et comment tu le vois pour dans cette course, pour dans 3 semaines, le début des playoffs?
Je m'inquiète pas tant que ça, parce que si on regarde les statistiques, Kyle Busch, c'est quand même 8 top 5, et ce qui est au même niveau que Keselowski pour le troisième meilleur total de cette saison. Il est à
Ouais,
10.
3 victoires à 0.
Je finis, je finis. Il
Ouais, vas-y.
est à 10 top 10, ce qui est à peu près équivalent à un prêt. Allez, j'arrondis à un prêt avec Truex, avec Joey Logano, avec Elliott, avec Ryan Blaney.
Ouais.
Donc, je pense pas qu'on dit que ces pilotes-là réalisent une mauvaise saison.
Non,
Le
ils sont
seul
4,
bémol.
5, 6, 7. Ouais, 4, 5, 6, 7.
Et puis on les voit chaque semaine.
Et on
Donc,
les voit chaque semaine.
Kyle
Mais
Busch également.
ouais, ils lui mettent 100 points dans les carreaux, en gros,
Mais
en
en fait,
moyenne.
Kyle Busch a des bas très bas et n'a pas de victoire. Je suis certain que si Kyle Busch avait une victoire, on n'en parlerait pas tant que cela d'un point de vue négatif. Et je pense qu'on attend Kyle Busch à un tel niveau de performance qu'une année un tout petit peu en retrait, on lui tacle dans les dents directement. Et c'est également parce que je pense que beaucoup de personnes ne peuvent pas se le piffrer également. Mais ça, c'est un autre débat. Mais personnellement, je suis pas incroyablement inquiet. Je me fais quand même un petit peu de soucis pour le Championship 4, mais pour moi, les 8 derniers pilotes qualifiés, on retrouve Kyle Busch dedans. Donc, il est, selon moi, en lice à 4 courses de la fin des playoffs pour jouer le titre.
Donc pour toi, Martinsville, encore, puisque Martinsville, ce sera la troisième demi-finale, il est encore en lice pour le titre.
Il est.
Phoenix, peut-être pas, Martinsville, oui. C'est ça que ça veut dire, si je résume.
C'est ça. C'est en fait pour moi, il est dans les 8 derniers. Et vu comme c'est parti, pas certain qu'il puisse atteindre le dernier carré. Mais avec Kyle Busch, on est certain de rien. Donc,
Pour toi, c'est aujourd'hui. C'est quoi ton dernier carré?
honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire Harvick, Keselowski, Hamlin à l'heure actuelle.
Ouais, oui.
Ouais, je suis d'accord.
Et je vais juste ressortir les courses pour pas dire de bêtises, pour savoir s'il y a une petite surprise qui peut se loger par-ci, par-là. Du coup, ce serait Martinsville,
Y a
Texas, Kansas.
Martinsville, Texas, et ouais, Kansas.
Oh, Keselowski, je ne
Kansas, qui est
pensais pas.
l'anti-Kyle Busch par excellence.
Non, Kansas, il a des bons résultats depuis quelques années, Kyle Busch, hein.
Ouais, sauf cette année en fait. Je crois qu'il a
Sauf cette
replongé.
année. Mais il a quand même des bons résultats à Kansas. Mais
Ouais.
quand je vois Kansas, Texas, Martinsville, je me dis un Elliott peut choper la quatrième place. Ou
Ouais.
un Logano. Je dis
Ou
ouais,
un
j'irai un Elliott
Truex.
ou un
Ah,
Logano.
j'irai avec un Truex, moi.
Ouais, ou un
À
Truex.
l'expérience, un Truex.
Mais en tout cas, je mets pas Kyle Busch à la porte. Et juste le manque de résultats, donc probants, donc victoires. Et surtout, il fait moins de vagues. Pour les victoires que les années précédentes, puisque cette fois-ci, bah, c'est Hamlin, Keselowski, Harvick, de temps à autre, Blaney, Elliott, on a du Logano. Almirola est très en verve depuis quelques semaines. Franchement, Kyle Busch, il est juste un petit peu plus dans l'ombre qu'à l'habitude. Et on voit pas autant Kyle Busch, donc tout le monde pense que oulala, Kyle Busch fait une mauvaise saison.
Alors je posais juste la question, parce qu'en plus, c'est vrai que quand tu rates bien, en un peu plus d'un an, c'est qu'une seule victoire pour Kyle Busch. On dira Johnson, c'est 3 ans sans victoire. Mais voilà, mais c'était juste pour avoir aussi un petit peu ton avis. Lilian, pareil, tu peux le donner sur Kyle Busch. Est-ce que...
Bah, écoute, je pense que ça va être une journée vraiment à marquer d'une pierre blanche, parce que je suis complètement d'accord avec les propos d'Aloïs. Non, mais je vais même ressortir quelques stats rapidement. Tu reprends 2011, on a Anthony Stewart qui est à la rue toute la saison régulière. Et il va en chercher 5 dans les playoffs.
Mais est-ce que c'est pas une anomalie, ça aussi, tu vois?
C'est possiblement une anomalie.
Est-ce que c'est pas une anomalie, mais dans l'autre sens, tu vois?
Après, regarde, Jimmy Johnson, à l'époque, quand il gagnait, c'était il y a longtemps. on disait, oh, il est pas terrible cette année. Le Chase, ça va pas le faire cette année, c'est pas pour lui.
Bim!
Et bien, à chaque fois... Voilà, il allait en chercher 2 ou 3 peut-être en saison régulière, et puis il allait en chercher 4 ou 5 pendant le Chase. Et il allait chercher le titre. Après, voilà, je pense que, comme Aloïs dit, je pense qu'il y a peut-être besoin, enfin, voilà, une victoire, un déclic. Et après, je pense que si ça lance Kyle Busch, là, je pense que les autres peuvent commencer à trembler.
Il va te gagner la seconde de Dozer, et puis voilà, quoi. Après,
à titre tout à fait personnel, et c'est tout à fait subjectif, moi, voir Kyle Busch qui fait sa pleureuse, j'adore.
Mais il faut regarder les résultats de Kyle Busch pour comprendre son année et sa part de Daytona. De Daytona à Loudon, t'as 20 courses. Les résultats, c'est 34, 15, 2, 3, 26, 2, 4, 29, 4, 2, 19, 6, 32, 5, 38, 6, 21, 4, 11, 38.
J'ai un terme qui me vient, tu me dis ce que t'en penses, mais c'est montagneur russe, quoi.
C'est ce que j'allais dire.
Totalement. Il y a des hauts très hauts, sauf que le très haut, ça s'arrête à la deuxième place, puisqu'il y en a une, deux, trois sur l'année, il a 2 troisième places, et il a 3 quatrième places.
Effectivement.
Et quand il se loupe, il se loupe correctement.
Dans les grandes largeurs, ouais.
Soit des crashs, soit il fait des bêtises. Soit la voiture est tout simplement mal réglée, ce qui peut arriver de temps à autre. Ça arrive à tout le monde, même à Hamlin. Hein. Hamlin a déjà eu des courses cette année où la voiture était dégueulasse. Pourtant, on ne dit pas que Hamlin fait une mauvaise saison. Il y a certes 5 victoires qui viennent compenser.
Ouais.
Ah, mais voilà, Hamlin, quand il a la bagnole, il gagne.
C'est ça. C'est et quand il a un problème de ballast, il prend 8 tours.
Voilà. Mais tu averses Hamlin et Kyle Busch. Tu me dis pas l'année, franchement, ça me surprendrait pas du tout.
Ouais.
Donc, faut arriver à relativiser cette situation qui est certes surprenante, mais au final, dans l'histoire d'un NASCAR, c'est pas nouveau. Hein.
Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avancer un tout petit peu, messieurs, dans le conducteur de l'émission. On l'a dit, on a fait 20 courses cette année, donc il n'en reste plus que 6 en saison régulière. Et pour l'instant, les qualifiés se nomment grâce à des victoires. Kevin Harvick, Brad Keselowski, Denny Hamlin, Ryan Blaney, Chase Elliott, Joey Logano, Martin Truex Jr., Alex Bowman, Austin Dillon et Cole Custer, ce qui nous fait 10 pilotes. Et les 6 pilotes au point sont Arik Almirola, Kurt Busch, Kyle Busch, Glenn Bowyer, Matt DiBenedetto et William Byron. Et les premiers éliminés sont pour l'instant Tyler Reddick, Jimmy Johnson, Eric Jones, Michael McDowell et Chris Buescher pour en citer, je crois, 5. Voilà un petit peu l'état des lieux, messieurs, à 6 courses de la fin. Sachant que sur les 6 courses de la fin, on a 2 double headers, un ce week-end au Michigan, un dans 2 semaines à Dover. La semaine prochaine, on a le circuit routier de Daytona et dans 3 semaines, on a l'ovale de Daytona.
Et là, donc on n'est pas à l'abri de surprise sur ces 2 courses.
Sur les 6 courses, hein. Sur les 6 courses, bonhomme.
Ouais, j'en parlais hors antenne. Ricky Stenhouse à Daytona en finale de saison régulière.
Michael McDowell à Daytona. Hein, vu comment la forme de la Pro elle fonctionne, je suis pas surpris que, plus vu son agressivité, il est capable d'en sortir 1, 2, si ce n'est 5. Je dis pas que la surprise est impossible. Et puis Michigan, allez, une petite course à la conso qui se vient se loger dans un double header. Dover, tu fais un coup de stratégie sur un dernier restart, bim, tu peux aller chercher la gagne. Et un routier, bah, tout peut arriver.
Un routier que personne ne connaît en réel. Après, ils ont tous roulé sur simulateur. On peut leur faire confiance. Mais en réel, personne n'a mis les roues dessus avec une voiture de NASCAR, j'entends, puisque des pilotes comme Jimmy Johnson et autres ont déjà participé au Rolex 24. Donc, forcément, ça complique un tout petit peu la donne. Et on peut avoir de la surprise un petit peu partout. Comme dit, Michigan, c'est deux fois 312 miles. De la conso, ça paraît un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. On n'est pas à l'abri. Dover, les deux courses peuvent faire très très mal au niveau de la mécanique. On va faire deux fois 311 miles. Le circuit routier de Daytona, c'est la grosse inconnue. Et Daytona en mode plaque de restriction, enfin course en paquet, pareil, grosse inconnue. Tension de fin de saison. Alors peut-être que les deux premiers segments seront à chier, mais le dernier segment, il y aura de la tension puisque
ça potentiellement. Ça va être une intensité de dingue.
Puisque potentiellement à ce jour, on a 10 pilotes qualifiés, on aura peut-être 11 ou 12 au point. Donc du coup, ça nous laisserait peut-être 18 pilotes qui peuvent se qualifier sur une grâce à une victoire. En gros, jusqu'à Ryan Preece, même Daniel Suarez qui pourrait gagner la course est rentrée par le soupirail en playoff. Donc voilà un petit peu, ça promet les trois prochaines semaines des courses assez palpitantes et un intérêt qui va peut-être se déporter un peu plus sur la bulle que sur les pilotes qualifiés pour les playoffs, comme souvent en fin
comme
de saison.
Comme chaque année, c'est clair.
Mais bon, tu te dis que sur les trois dernières semaines, tu as Michigan deux fois, Dover deux fois, Daytona deux fois, ça fait drôle.
Ça fait un beau programme quand même.
Ça fait un beau programme. Voilà un petit peu pour la partie calendrier, messieurs. On a parlé du Michigan pour cette semaine. On va passer aux actus parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et que, enfin, une demi-heure dans le monde de la NASCAR.
On va encore une fois exposer le chrono.
Non, mais en fait, c'est ça. C'est une demi-heure dans l'espace-temps NASCAR. Ça fait juste trois quarts d'heure, une heure vingt dans le monde hors NASCAR. Mais c'est pas grave, ça. Une fois que vous l'avez compris, c'est comme quand on vous annonce 19h08 en heure française. Bah ouais, c'est 19h08 dans l'espace-temps NASCAR. Il était 19h08 au moment du drapeau vert. Pas en France, mais il était 19h08 dans l'espace-temps NASCAR. Donc, je n'avais pas faux.
Tu veux dire 21h08?
Ouais, ou 21h, ouais, 21h. Ouais, il était 19h08 quelque part dans le monde.
Fais pas chier.
T'as pas commencé à me faire chier. Hein. Actualité, messieurs. Il y a beaucoup de choses, je crois, à dire en NASCAR. La première, on va commencer dans l'ordre. Lilian, si tu le veux bien, Brad Keselowski, qui a prolongé chez Penske. Donc, fin du suspense.
Voilà, Hendrick, pas Hendrick, bah, ce sera non.
Ce sera non.
En tout cas, pas pour 2021.
C'est ça, pas pour 2021, il reste chez Penske.
Au vu des résultats de la Hendrick versus la Penske, me semble tout à fait logique.
Ouais, ça bouge juste un petit peu le jeu de chaise musicale qu'on entrevoyait.
Ouais, mais c'est ça qui est drôle. On arrête la musique, on enlève une chaise et on recommence.
Et du coup, on recommence au niveau de la 88 ?
Bah, en fait, Brad Keselowski n'a signé que pour un an chez Penske. Voilà. Mais après, vu que là, du coup, t'es passé sur la 88, t'es passé chez Hendrick, il se murmure que la Hendrick pourrait passer à trois voitures, Aloïs.
Et du coup, ce serait la 88 qui passerait à la trappe et Alex Bowman qui remplacerait Jimmy Johnson dans la 48, selon les dernières rumeurs.
Exactement. Ce serait ça le plan. Est-ce que vous croyez à une réduction de la Hendrick à trois voitures ou pas, déjà?
Je trouve ça vachement inquiétant, si tu veux. C'est même pas une histoire de j'y crois ou j'y crois pas, je répondrai après. Moi, je trouve que c'est vachement inquiétant parce que ça reste quand même, selon moi, financièrement, encore l'écurie la plus puissante. Ça fait depuis plusieurs saisons que c'est plus compliqué, que ça gagne beaucoup moins. On n'a plus le même line-up non plus.
Oui.
Sûr que fut un temps, on avait Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr. et même Casey Kane. ou Marc Martin encore avant. C'est sûr que bah oui, là on a des pilotes qui sur le papier sont prometteurs, qui sont jeunes. Il faut leur laisser le temps. Donc bah oui, voilà, c'est ça gagne un peu moins. On a une voiture qui était un peu moins performante aussi. Et puis bah pour couronner le tout, bah on a le Covid-19 hein, qui est passé par là. Et puis bah toutes les difficultés financières que ça peut engendrer pour un sponsor d'investir pour mettre son nom sur le capot d'une voiture de NASCAR. Et puis bah de toute façon la Hendrick, ça fait déjà plusieurs années, tu m'arrêtes si je me trompe Geoffroy, qu'ils ont des soucis pour boucler leur dossier de sponsoring pour les voitures.
Oui.
Et donc là, bah, avec un pilote qui s'en va, et plus le Covid, bah, finalement, la décision la plus sage pour la Hendrick n'est-elle peut-être pas de rester avec 3 voitures compétitives qui vont aller chercher des résultats que 4, mais moyen, quoi.
Mais je suis d'accord avec toi, Lilian. C'est un petit peu alarmant, mais on peut voir le verre à moitié rempli également et se dire qu'au final... 4 voitures en 2020 et du coup pour se projeter en 2021, est-ce que c'est pas trop? Et ben moi je me dis que oui, puisque si on regarde la Penske, tu as 3 voitures. Tu regardes la Gibbs, tu as 3 voitures performantes, puisque la 20, on va pas... elle est vraiment entre deux eaux. On voit qu'il y a un problème de performance par rapport aux 3 voitures principales.
Je peux mettre un bémol?
Dis-moi.
Moi. tu prends la 20 et la 95, ça te fait une voiture performante sur les deux.
Ouais, mais la 95, je sais pas si la Gibbs mettait autant de d'investissement que dans la 20.
Elle fournit châssis et moteur. Hein.
De toute façon, la 95, on va y venir. Hein, donc,
Ouais, elle fournit châssis et moteur. Quoi, donc.
J'avais pas fini, mais quand on regarde la Supertas, t'es également à 3 voitures extrêmement performantes. Et du coup, si tu veux être performant à 4 en 2021, je ne sais pas si c'est le modèle le plus viable aujourd'hui en NASCAR, et réduire à 3 pour recentrer et concentrer les forces et les investissements, par exemple le sponsoring, comme tu le soulignais il y a quelques instants, ou même en tant que performance pure pour le développement, etc. C'est possiblement la décision la plus sensée et elle rentre en plus dans la réduction des coûts face au modèle de la NASCAR et face à la pandémie du Covid-19 également parmi les sports. Donc ouais. Je pense qu'une réduction d'une écurie, c'est possiblement pas un aveu de faiblesse, mais peut-être une décision stratégique.
Après, vas-y, Geoffroy.
Ouais, non, vas-y, parce que je voulais enchaîner, vas-y.
Je vais même encore aller plus loin, Loïs. Je regardais une vidéo cette semaine d'un fan qui a une chaîne sur YouTube, hein, pour ne pas citer, qui, il ne l'affirme pas, hein, c'est quelque chose que lui suppose. Il voit l'avenir de l'Hendrick comme étant aussi funeste que la Rush. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est, voilà, passe d'une écurie qui gagne, qui a des top pilotes, et passer, voilà, qui va commencer à réduire le nombre de voitures et à gagner de moins en moins. Et pour diminuer. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mais on peut voir un parallèle. Ceci dit, le problème qui a complètement miné la Roush Fenway Racing, c'est qu'ils ont embauché des pilotes qui étaient mauvais. Alors qu'à la Hendrick, tu as des Chase Elliott qui gagnent, tu as des Alex Bowman qui gagnent un petit peu moins, tu as William Byron qui est un prometteur et qui... se rapproche de la victoire année après année, si ce n'est semaine après semaine. C'est comparable à un Ricky Stenhouse Jr. qui devait être le futur grand champion de la NASCAR et qui, au final, a cassé plus de bagnoles qu'il a gagné de victoires. Et Trevor Bayne, qui a totalement disparu de la circulation. Je peux continuer, mais...
Sur le papier, Ricky Stenhouse, il arrivait en tant que double champion Xfinity. Ça devait, enfin, sur le papier, ça devait gagner, quoi. Tu dis qu'ils ont recruté des mauvais pilotes. Ricky Stenhouse, il venait en plus de la Rush en Xfinity, double champion. Enfin, sur le papier, c'est pas un mauvais recrutement, c'est logique, c'est ce que la Gibbs fait également.
Si c'était un bon pilote, il serait encore à la Roush Fenway Racing à l'heure actuelle. Or, il ne l'est pas.
Enfin, est-ce que tout seul, il pouvait remettre la Rush sur le devant de la scène, quoi?
Non, mais c'est une cascade de mauvais choix qui a totalement périclité la Roche Fenwood Racing. C'est aussi simple que
Parce
ça.
que la
On avait
Roche, quand
même
même.
fait appel à Marc Martin pour revenir, enfin, pas en tant que pilote, mais il avait repris un poste au sein de l'écurie pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans la maison Roche. Et puis finalement, on
C'était
n'a
trop
pas
tard.
vu de résultat, hein.
Mais la dynamique était déjà bien trop négative à cette époque-là. Et je pense pas qu'on puisse dire que la Hendrick se trouve dans une situation telle que celle de la Roche Fenwood Racing. Tout du moins à époque égale. Ça, on est clairement pas au même niveau. Mais le parallèle est intéressant et il est nécessaire de le tirer.
Il
Ceci dit,
mérite, voilà, il mérite d'être cité. Après,
on est d'accord.
on n'y croit pas, mais
Ouais. Alors, on va juste avancer un tout petit peu parce que tout à l'heure,
vas-y,
Aloïs, il
vas-y,
parlait
vas-y,
de la.
vas-y.
Enfin, on parlait de la 95, donc
Ouais.
de la Levine. Ça tombe bien, c'est l'autre actualité.
C'est toujours ça.
La Levine est vendue. Elle
La
va
rumeur
terminer la
courait,
saison.
c'est vendu, ouais.
La Levine, elle est vendue. Le nouvel investisseur, on ne le connaît pas. La Levine ne le dévoilera pas. Elle préfère laisser le soin au nouvel annonceur de le faire, ce qui peut se comprendre. Donc quand je dis la Levine elle est vendue, ça concerne tout le personnel et compagnie et la place de charter dans le top 36, donc la place au départ de toutes les courses pour la saison prochaine. Les châssis et moteurs étaient fournis par la Gibbs, donc ça repartira à la Gibbs en temps voulu. Du coup, ça met un pilote sur le marché, Christopher Bell. Jusque-là, on est d'accord. Christopher
Christopher
Bell qui
Bell
est
ou
quand
Eric
même...
Jones?
Attends, laisse-moi finir. Christopher Bell qui est sous contrat Gibbs. On est d'accord. Après, c'est mon point de vue, mais Christopher Bell, ça fait un peu plus rêver qu'Eric Jones quand même.
On est d'accord.
C'est vrai.
On est d'accord. Donc, ça met sur le marché un pilote qui pourrait finalement être Eric Jones, puisque par jeu de chaise musicale, Christopher Bell pourrait aller dans la 20. Sans trop de. Enfin, ça paraîtrait pas aberrant. Jusque-là, on est d'accord. Et Eric Jones pourrait se retrouver à la Hendrick.
Donc si l'Hendrick reste à quatre voitures, on est
Si
d'accord.
la Hendrick reste à 4 voitures, oui.
Ou alors, comme c'est à la mode, la Hendrick investit dans une écurie satellite pour refourguer Eric Jones. Bah, si elle veut passer à trois structures principales et qu'elle veut embaucher un quatrième pilote, il n'y a pas 300 solutions, hein. Soit on est dans deux directions différentes, soit ça va dans l'une, soit ça va dans l'autre. Sinon, bah, faut trouver une troisième solution.
Oui. Ça paraît, enfin. Moi, ça me paraît fou hein, de miser sur Eric Jones aujourd'hui. Alors certes, il a quelques victoires en Cup. Daytona, la course estivale, il y a 2 ans, et Darlington l'année dernière.
Et puis, si on regarde cette saison, au final, il a quand même 5 top 5, le petit Eric Jones, ce qui est au même niveau que Arik Almirola, Martin Truex Jr. et Joey Logano, pour ne citer
Oui,
que. Et c'est
ouais.
même plus que Kurt Busch, par exemple.
C'est vrai.
Donc, Eric Jones, c'est pas mauvais, il est moins flashy que ses collègues. Ça, c'est
Mais le
certain.
problème, c'est que cette année, t'en as deux qui sont tellement au-dessus de la mêlée que tous les autres, ils paraissent presque nuls, quoi.
Mais en fait, mais comme tous les ans, t'en as deux qui sont au-dessus de la mêlée, quoi. L'année dernière, c'était Kyle Busch et Martin Truex Jr. C'est
C'est
malheureusement,
pas faux.
c'est un peu le schéma qui se répète. Mais aujourd'hui, investir sur Eric Jones, alors je vais pas dire si ça me paraît une grosse connerie, mais ça me paraît pas le plus judicieux quand on voit les perfs.
Mais du coup, Eric Jones, qu'est-ce qu'il devient dans ce cas-ci?
Eric Jones, il pourrait aller à la Hendrick, mais s'il ne va pas à la Hendrick, je sais pas ce
Bah
qu'il
dans
advient
quel
d'Eric
top
Jones.
team? Chez Penske, ça bougera pas. Chez
Bah non.
Stuartas, pour moi, ça ne bougera pas non plus.
Bah non.
La Childress qui repasse à trois structures après cette belle saison?
Le problème, c'est qu'il va falloir trouver des investisseurs post-coronavirus. Hein.
On est d'accord.
C'est.
Après, tu as la 95 pour l'instant, c'est en stand-by puisqu'on ne sait pas le futur. Mais si Christopher Bell monte, il pourrait y avoir un échange de pilotes. Mais en tout cas, dans ça, il faut attendre de connaître les plans futurs de la Levine Racing.
Et oui, il faut.
Ou
Non,
alors,
mais.
il peut également passer à la 43 si elle se libère.
Ouais, mais en fait, on va t'appeler Aloïs Transition, toi, en fait. Parce que tu me fais toutes les transitions sans le vouloir. Mais c'est
Il est
bien.
bon, il est
Non,
bon,
j'ai
c'est le
pris
talent.
la
Mais c'est le talent,
transition.
c'est le talent.
La
C'est pour
transition,
ça.
non, j'ai vu vos messages, je l'ai faite de mon plein gré.
Ouais, c'est ça, de ton plein gré. Mais en fait,
Elle est belle, elle est belle.
c'est pas dans la 43 que je le verrai, mais dans la 42. Parce que dans la 43, donc pour en revenir à des des rumeurs de quoi c'était le week-end dernier, fin de semaine dernière, Bubba Wallace pourrait quitter la Richard Petty Motorsports puisque la Ganassi serait intéressée pour le faire piloter la 42 à la place de Matt Kenseth qui n'a signé en gros que pour jusqu'à la fin de la saison en remplacement de Kyle Larson qui a été viré manu militari.
Je trouve qu'il y a une logique dans le déplacement de Bubba Wallace à la Ganassi. On reste dans le giron Chevrolet et ouais. Il monte d'un échelon techniquement. Je pense qu'on peut positionner la Ganassi au-dessus de la RPM à l'heure actuelle, en 2020.
Ouais. On est d'accord.
Ouais.
Donc, ouais. Il augmente, il a plus de moyens. Et je suis certain qu'à la Ganassi, avec l'aide de Papa Ganassi, il peut trouver les sponsors nécessaires pour amener plus d'investissements dans la 42 et dans la Chip Ganassi Racing au total.
Et ça, ça lui donne un vrai volant pour aller potentiellement jouer les playoffs. Parce que c'est une voiture qui, avec Kyle Larson, aurait joué les playoffs.
Ouais, sauf que depuis, la Richard Petty Motorsports a proposé à Bubba Wallace de devenir propriétaire aussi dans l'écurie. Histoire d'avoir une petite contre-proposition et de faire quelque chose, d'essayer de retenir son pilote.
Ça fait très « je tente ma dernière chance » ou « coup de poker » quand même.
Oui.
Donc, j'ai proposé des parts d'investissement d'une écurie que tu pilotes, pour laquelle tu pilotes. Ça donne pas forcément un bon signe sur les négociations.
Mais après, tout ce qui s'est passé en 2020, après, je mets des guillemets, l'affaire t'as la dégâts. Est-ce que ça peut pas changer la donne?
Ah mais si, d'un point de vue émotionnel, je suis certain qu'il y a un gros plus avec la RPM et que tout le monde est rallié autour de lui, ça c'est une certitude. Après, il pilote pas uniquement pour se faire des potes.
Oui, on est d'accord, il pilote pour gagner.
Pour gagner et pour remporter des titres et faire de la thune. Donc, faut rester un petit peu pragmatique également.
Donc, moi, je suis à la place de Bubba Wallace, je vais chez Ganassi, je reste pas chez Richard Petit si je veux gagner des courses.
Oui, je te rejoins aussi dans le raisonnement. Donc, pour vous, le jeu de chaise musicale serait Hendrick à 3 voitures, Bubba Wallace dans la 42 à la place de Kenseth et Eric Jones dans la 43. En voie de garage, quoi.
C'est un peu capillotracté de déplacer Eric Jones de la 20 à la 43.
C'est dans clair.
Théorie, tu changes, tu passes de Toyota à Chevrolet. Il n'y a pas vraiment de lien. Tu passes surtout de la Gibbs à la RPM, ce qui est quand même assez drastique.
Mais en fait, encore une fois, j'ai l'impression que c'est la Hendrick qui va rester la clé du transfert, à savoir si elle va rester à 4 voitures ou passer à 3.
Ouais. Ça change beaucoup de choses si elle reste à 4, pour être honnête.
C'est vrai.
Et parce que les gars, on n'a pas encore parlé de tous les pilotes des Xfinity qui sont en train de mettre le feu à la saison, les Chase Briscoe, les
Noah Gragson, hein.
Noah Gragson,
Cindric,
Austin Cindric.
Ah, parce que Cindric chez Penske va commencer à taper du pied sévère aussi.
Hein. Ah oui, on ne va pas le laisser dans Xfinity. Hein.
À ton avis, pourquoi Kieselowski l'a rempli pour un an?
Ah. Ah, bon, il y a un autre Cindric hein, dans les pontes de chez Penske hein, qui est là aussi pour imposer. Hein.
Oui, c'est ça. Mais à mon avis, Kieselowski part en 2021 et Austin Cindric prend la place en 2022. Avec Logano et Blaney en pilote d'expérience, ça peut faire un line-up totalement correct chez Penske.
Chase Briscoe devrait partir à la Stewartas. Faut qu'une place se libère. Je ne connais pas les durées de contrat, ceci dit.
Clint Bowyer.
Ouais, Bowyer, bah oui. Bowyer. Vu les résultats, ça serait logique.
Je pense à Clint Bowyer, par exemple, ouais.
Attends, j'essaie de retrouver les durées de contrat en même temps qu'on parle, mais oui, Chase Briscoe, ce serait plus la Stewartas, ouais, pardon.
Ouais, c'est quand même un pilote JR Motorsport, donc un
Ouais, mais sauf que, jamais, à aucun moment, Noah Gragson, on en a parlé pour la. Comment?
Pas cette année.
Il montrera pas cette année en 2022.
Ouais, c'est ça. Bon, tu vois qu'on n'a jamais parlé de comment qui s'appelle Justin Allgaier, Clint Bowyer 2020 sa dernière année de contrat, comme Almirola d'ailleurs.
Oh, les deux sont en fin de contrat cette année.
Si j'ai bien vu, oui.
Bon, je pense qu'Almirola va être prolongé vu sa saison.
Ouais.
Et Bowyer.
Bowyer, il a un siège tout chaud chez Fox. Hein.
Ben, c'est ce que j'allais dire, exactement. Mike Joy à la retraite et Bowyer avec Gordon à l'antenne.
Oh, je le vois quand même bien tirer une saison de plus, Clint Bowyer, quand même.
Ouais.
C'est quand même un cran
J'ai
en-dessus
du
de ses
mal à voir
coéquipiers.
Chase Briscoe passer tout de suite en cup.
Non, je pense qu'il va encore faire une saison, mais bon, c'est. Voilà, il y a tout un jeu de chaise musicale, c'est pareil, à une époque qui n'est pas si lointaine que ça. On parlait de toutes les semaines de John Hunter Nemechek, on n'en entend plus parler, il est sous les radars.
Mais j'allais t'en parler justement, Jonathan Nemechek peut aussi glaner un poste plus
Oui.
intéressant.
Oh, je
C'est
sais pas,
ça.
les voitures fortes, ça va être compliqué, hein.
Mais lui au départ était pas Ganassi.
Si, au départ, mais il n'y avait plus de place. Donc voilà. C'est très très compliqué. Et là, pour l'instant, ça fait 20 minutes qu'on parle. On fait des. En gros, on fait que des suppositions.
Là, on a explosé le chrono, là, de toute façon.
Oui, non, mais c'est pas grave. De toute
Là,
façon,
pour maintenant.
c'est ça. Mais en fait, c'était juste pour parler un petit peu des possibilités de transfert. Il y a tout un tas de choses. Et comme tu le disais, c'est encore la Hendrick qui détient non pas les cordons de la bourse, quoique peut-être un peu du coup, parce que s'ils ont le pognon, voilà, mais qui détient encore une fois la clé des transferts. La prolongation de Keselowski chez Penske, finalement, n'a rien réglé, enfin, ou presque rien réglé.
Non, mais c'est pas anodin, je trouve.
Si tu l'as dit tout à l'heure, en fait, ça a juste enlevé une chaise, mais au final, le jeu continue.
C'est ça, le jeu continue. Il reste autant de pilotes autour de la table. Donc, enfin, autour des chaises. Hein, donc voilà, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair pour l'instant. La Silly Season devrait se poursuivre. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Et peut-être que d'ici la fin de saison régulière, les choses se seront mises en place. À moins que cette année, coronavirus oblige, on attende la fin de saison pour en savoir plus. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la partie transfert? Est-ce qu'on a oublié quelqu'un de derrière les fagots?
On a fait le tour là, je pense, hein, quand même.
Oh,
Ouais,
je
on est
pense que
d'accord.
c'est quand même assez
On va en
complet là.
garder un peu pour la semaine prochaine.
Eh, c'est ça.
On
Donc la
espère
semaine
qu'on
prochaine.
parle de l'annulation de Saint-Pete la
C'est
semaine
ça, la semaine
prochaine.
prochaine, on parle de l'annulation de Saint-Pete. On parlera peut-être un petit peu des essais d'Indianapolis. Ben non, ils n'auront pas commencé, en fait. Ils auront peut-être été annulés d'ici là.
On aura
On
peut-être de la
parlera.
bonne actu IndyCar quand même. Qui sait?
On aura peut-être de la bonne actu IndyCar, on l'espère. On aura deux courses au Michigan à débriefer.
En
Et puis
espérant
voilà.
qu'elles soient bonnes, mais bon, je mets pas ma main coupée.
Bah écoute, rendez-vous ce week-end pour suivre les courses. Elles sont assez tardives. De tête, c'est 22h le samedi, 22h30 le dimanche pour les heures françaises. Voilà, je crois qu'on a été complet. Merci à toutes et tous d'avoir écouté, d'avoir été patient quand même, hein, parce que là, on est à plus d'une heure d'émission, il faut le dire.
Ouais, mais il y avait des choses à dire, il y avait des choses à dire.
Et les vrais ont toutes les informations. Ceux qui ont tenu pendant tout le
Jusqu'au
podcast
bout.
ont vraiment toutes les informations.
On saluera quand même de loin tous ceux qui ont été obligés de couper le podcast parce qu'ils avaient boulot, tu vois. Ils étaient arrivés au terminus du métro.
Ah merde, merde, merde.
Ils ont oublié le boulot. Oh mince, oh, c'est dommage. Rendez-vous donc ce week-end pour suivre les courses et la semaine prochaine pour débriefer. Merci à Loïs, merci à Lilian, merci à tous. Bonne semaine, bye bye.
À bientôt, bon courage.
Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.